Alors bonjour, bienvenue à la convocation. Pour vous situer un peu, les convocations, c'est un rendez-vous habituel aux ateliers Vortex pour les expositions monographiques. C'est l'occasion pour l'artiste d'inviter un professionnel qui est extérieur au monde de l'art pour apporter un éclairage un peu différent sur les thématiques qui ont été abordées lors de son travail ou des centres d'intérêt qu'ils peuvent avoir en commun. Aujourd'hui, on est là avec Anaïs Gauthier, qui a réalisé cette exposition Opération Stage et qui a invité pour la conversation Pierre Ancel. Voilà, donc je vais un peu vous introduire la conversation, puis ensuite je leur laisserai la parole pour se présenter et pour converser. Voilà, donc Anaïs Gauthier a été en résidence aux ateliers Vortex tout l'été, juillet en août, pour réaliser cette exposition Opération Stage. Donc vous vous trouvez ici dans une pièce, une salle de ralentissement, salle de transformation, où des sculptures sont en attente de soins. Anaïs vous en parlera davantage. Et M. Pierre Ancel, qu'on remercie de sa présence aujourd'hui, qui est professeur en philosophie des sciences à l'Université de Bourgogne. Il est également le directeur de l'Université pour tous. Et le créateur et le co-responsable de l'axe éthique et vulnérabilité du laboratoire interdisciplinaire de recherche société, sensibilité et soins. Je vais vous laisser vous présenter tous les deux et puis commencer cette conversation. Merci à vous.
Merci.
Je commence ?
Bien sûr.
Déjà merci d'être venu. J'ai produit cette pièce Opération Stase et je me disais que pour introduire aussi le fait d'avoir invité Pierre Ancel, c'était pas mal de revenir très rapidement sur des installations précédentes qui montrent un peu les cheminements de pensée et les rebondissements en fait conceptuels et formels. J'ai un travail essentiellement dans tout le monde m'entend. Un travail essentiellement d'installation. Initialement, j'avais des installations qui étaient plutôt des huis clos, donc qui étaient refermées sur eux-mêmes, on ne pouvait pas rentrer dedans. Donc, on était vraiment spectateurs de choses qui étaient en train de se faire, qui étaient déjà motorisées. Et cette motorisation, à chaque fois, elle amenait à la destruction ou à la transformation, mais plutôt par l'altération de forme. Du coup, le mouvement, en fait, venait vraiment abîmer. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai eu les expériences d'exposition où les mouvements, en fait, avaient besoin de beaucoup de maintenance parce que, en fait, dès qu'il y a des choses motorisées dans la durée, en fait, ça veut dire qu'il faut tout le temps venir en prendre soin, en fait, l'entretenir. Et au fur et à mesure, en fait, la relation entre des éléments organiques et la motorisation, elle s'est un peu inversée. Il n'y avait plus tant une dynamique de mettre à mal que comment, en fait, soit ça pouvait être des éléments qui allaient être comme des machines de sport ou de rééducation. Et ici, l'idée, c'était aussi comment une machinerie pouvait renvoyer plus à l'univers du soin, avec des formes qui étaient plus branchées, perfusées. Et du coup, il y a vraiment cette question du soin aussi qui fait partie même de... du travail du régisseur Théophile, de Périne et de Camille quand l'installation est mise en route, c'est qu'il y a une vigilance à avoir sur les motorisations pour qu'elles fonctionnent bien et un entretien, des gestes à connaître, donc une façon de pouvoir répondre rapidement à des soucis potentiels. Et donc tout ça, en fait, qui, moi, vient par vraiment des questionnements qui sont liés à la sculpture en mouvement et à la motorisation. Naturellement, il y avait la question du soin et du coup, toutes ces questions, elles sont travaillées par Pierre Ancel. J'avais envie aussi d'aborder plus largement en fait cette question de la maintenance, parce qu'en fait, la maintenance, c'est vraiment reprendre les mêmes concepts que le soin. C'est d'ailleurs écrit dans Le Soin des choses de Pontille et Denis, où vraiment, en fait, c'est vraiment le même registre de vocabulaire. Et de prendre conscience aussi de la vulnérabilité des formes et l'interdépendance en fait entre la personne qui va devoir allumer, faire par exemple les médiations. Donc il y a tout un travail comme ça de maintenance. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle cette question du soin, pour laquelle j'ai proposé, grâce à Périne aussi, à Pierre Ancel de venir pour ce temps de discussion. Je vous laisse vous présenter du coup. J'espère que j'ai pas trop long. sur...
Non, non, c'est très important qu'on comprenne un peu la genèse. Cette question du soin, oui, qui dans notre société est de plus en plus mécanisée, c'est un soin que nous connaissons à travers des machines. Lorsque nous avons besoin nous-mêmes de soins, nous avons besoin de perfusion, nous avons besoin de respirateurs artificiels parfois. Nous avons besoin d'une machinerie qui se met en place autour de nous et qui prend souvent plus de place que les humains qui donnent les soins. Nous avons des soins de plus en plus automatisés, voire même robotisés, numérisés. Et finalement, cette mutabilité des formes dont vous parliez à l'instant, ce phénomène qui fait que ces formes ici sont flasques, blanches, rosâtres, duveteuses, et liées à des crochets, suspendues. Bien, ça rappelle l'organicité qui est la nôtre, une organicité dont nous ne pouvons pas nous défaire malgré tous ces efforts de technicisation qui nous environnent. Une organisation qui nous est propre, qui fait que nous sommes dépendants désormais des machines. Nous sommes des êtres organiques dépendants des machines. Et le soin aujourd'hui bien, se rapporte à cette dimension de la dépendance de l'humain. Ce n'est pas très agréable que de se souvenir de ces aspects. Mais vous nous direz d'ailleurs si, en travaillant, vous avez travaillé plutôt l'agrément ou plutôt la défiance, l'inquiétude, l'inquiétante étrangeté de ce qui résonne en nous à partir du moment où nous réfléchissons à ce que nous sommes biologiquement. Le soin, finalement, il est destiné à des corps qui sont en transformation. Puis nous le savons bien, dès lors que nous sommes malades, chroniquement vieillissants, ça c'est pour tout le monde, et que nous avons affaire à ce qui va nous soutenir, nous suspendre, éventuellement nous étayer à partir d'un labyrinthe alambiqué de cornues et de tuyaux. C'est aussi notre vie, finalement, que d'être suspendu entre la santé et la déréliction progressive qui nous arrivera à un moment ou à un autre, forcément, mais toujours dans un contexte très mécanisé, de plus en plus automatisé. À l'hôpital, on le sait bien, malheureusement. Le soin aujourd'hui est tellement automatisé, tellement mécanisé, que même celles et ceux qui y travaillent en subissent les conséquences. À la fois dans l'organisation du travail et dans la dépendance aux machines, parce que eux aussi ont parfois, plus souvent, l'impression de travailler pour les machines que de travailler pour les corps des patients. Donc cela peut évoquer des échos, alors j'associe bien sûr librement par rapport à ce que vous avez proposé, mais cela peut évoquer des échos de ce qu'est aujourd'hui un monde où le soin est de plus en plus lié à la technique, de moins en moins lié au contact, à la continuité entre les corps, à la réassurance que peut donner le contact. Voilà, nous sommes peut-être ici en présence d'une forme de réflexion dans votre propre espace intérieur, puisque là, en ce moment, nous habitons votre propre espace intérieur, nous y sommes. Nous sommes installés dans votre installation. Et alors, je ne sais pas si ce que je viens de dire vous évoque quelque chose, mais voilà ce que je pouvais vous dire à propos de cette question du rapport entre l'œuvre et le soin.
Par rapport à l'espace, pour rebondir sur le fait que là, effectivement, il y a une sorte d'espace un peu intérieur aussi, parce qu'on a déjà des corps qui sont comme morcelés, ouverts, donc déjà on a accès à des intériorités. Et après, moi j'ai vraiment pensé aussi à la fois un univers qui allait être très aseptisé et très cloisonné, avec une question de circulation un peu forcée. Et il y avait aussi l'idée d'être sur des membranes aussi très transparentes comme ça. Donc on était aussi dans quelque chose de l'ordre de l'intérieur du corps, mais moi c'est une question qui revient souvent, et c'est comment dire l'intérieur du corps sans être morbide, trouver les bonnes tonalités, trouver la bonne distance pour qu'il y ait effectivement ce que vous appelez cette étrangeté, en fait, ce trouble qu'on va avoir avec la rencontre avec des pièces, mais pour avoir une place aussi en tant que public. Et je pense que peut-être c'est une place aussi qu'on peut avoir dans un milieu hospitalier. Enfin, comment en fait un espace d'accueil est vraiment accueillant. Et par rapport à cette installation, moi, enfin, dès qu'il y a une installation, comme il y a un rapport à l'espace, et il y a une circulation induite ou au contraire qui est bloquée, en fait, je pense tout de suite au public, en fait, et comment il va y avoir des points de vue, des circulations, les sensations que j'aimerais que moi j'essaie de mettre en place, en fait, et que je suppose qu'il pourrait être perçu avec une autre subjectivité, mais pour une altérité. Donc ça, effectivement, cette idée d'espace intérieur, il est aussi, je dirais que c'est ce dont on a parlé aussi, cette question de, à un moment, des rapports de physicalité et qui ferait des parallèles des états psychiques aussi. Mm-hmm. Et ça, moi, c'est par des jeux de vocabulaire que je fais des passages en permanence, en fait. On avait parlé à un moment de corps morcelé, mais en fait on peut être morcelé sans, en étant entier, enfin, sans avoir de morceaux en main. Oui.
Je vais vous demander, oui, si cette position que vous prenez dans votre corps, comme qui vous mettra mal, ouais, vos œuvres pour rapprocher la corde écharnée, ou quelque chose de morcelé comme vous venez de dire à l'instant. Ça faisait beaucoup penser aussi à Bacon. Je ne sais pas si vous êtes inspiré de Bacon, mais quand on voit ces peintures où on voit un peu que c'est torturé, finalement ça représente un peu le corps humain qui est mis à mal, comme vous l'avez dit.
Je pense que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le travail de Bacon, c'est tout son rapport de mouvement aussi, et d'avoir des formes indéfinies qui disent en fait des choses qui sont tout le temps en train de se faire, en train d'être travaillées en fait, et aussi des choses qui sont souvent très cloisonnées. Enfin, il y a beaucoup de corps qui sont dans des espaces délimités. Enfin, il y a aussi cet espace comme ici en fait. Donc effectivement, et Bacon, bah oui, c'est une référence qui est importante pour moi. Pour c'est pas une phare pour moi, mais effectivement, enfin, dans le travail de couleur, de comment dire un corps qui est torturé mais par la représentation d'un état intérieur qui serait visible sur l'enveloppe, en fait, ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et moi, il y a vraiment ce travail d'intérieur-extérieur, en fait. Là, il y a vraiment l'idée aussi que les formes, elles avaient comme des peaux, qu'elles étaient ouvertes, ce que vous dites, un peu avec des écorchés, et en fait on avait accès à l'intérieur et on voyait aussi un réseau de circulation qui passait de l'intérieur à l'extérieur, en fait. Il y avait vraiment l'idée de faire des va-et-vient comme ça, quoi. Mais Pierre, vous pouvez peut-être, enfin, on parlait justement de corps morcelé, peut-être aussi juste dans l'expérience vécue, qui pouvait ne pas être avec un membre en moins, un membre fantôme ou tout ça, mais aussi qui peut être une expérience psychique en fait intense en fait.
Bah, effectivement, ce corps morcelé, il peut être visible, mais il peut aussi être invisible au sens où c'est l'expérience du corps qui va donner lieu à ce morcellement. C'est l'impression de ne pas avoir un corps qui forme une continuité, une unité. Et ça, bien, quand on est dans une situation de dépendance, bien souvent, malheureusement, on peut avoir cette impression. Notamment quand le soin est lui-même morcelé. Quand les acteurs de soins se succèdent et qu'on a l'impression d'être un objet pour eux, de ne pas avoir un corps qui appartient en propre, mais un corps qui va être manipulé, lavé, transporté, habillé. Et on a alors, on peut avoir ce que décrivent des personnes qui sont en dépendance physique complète. Elles peuvent avoir l'impression que leur corps n'a plus cette unité. Et ce morcellement, il existe aussi dans le champ de l'atteinte psychique. Dans certaines atteintes schizophréniques, par exemple, au moment où vous avez une acmé d'angoisse, eh bien, il y a aussi ce sentiment d'un éclatement. Cette fois, c'est un morcellement beaucoup plus important. Il est très difficile de l'imaginer quand on n'a pas vécu, et heureusement, pour la plupart d'entre nous, nous ne l'avons pas vécu, ce que peut être cette expérience. Mais si je reviens à la première acception du corps morcelé dans le corps vécu, on voit que c'est lié aussi à la continuité que l'on met en place dans le soin. Quand vous avez une discontinuité du soin, vous pouvez avoir aussi une discontinuité vécue du corps. Et cet effet-là, on le retrouve assez fréquemment aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de la mise à l'extérieur de l'intérieur du corps. Oui, ça c'est ce qu'on a assez souvent quand aujourd'hui on est confronté aux images de son propre corps. Ça va des radios avec les rayons X, aux IRM, ou encore aux personnes qui sont dialysées, qui voient leur sang circuler à l'intérieur de la machine pendant plusieurs heures. Là aussi, hein, vous avez des liquides corporels qui passent de l'intérieur du corps à l'extérieur dans la machine, qu'on voit circuler, qui reviennent ensuite au fur et à mesure du rythme de la dialyse. Et c'est une expérience qui a été bien décrite par des collègues psychologues pour montrer à quel point il est difficile d'accepter cette mise à l'extérieur de son propre corps. Vous faisiez allusion à la notion freudienne d'inquiétante étrangeté, qu'on peut traduire aussi par inquiétante familiarité, l'impression que c'est très proche, très familier, mais en même temps lointain. Et se voir ainsi comme un être organique, et non plus seulement se sentir comme un corps dans sa continuité, dans la continuité de son pouvoir d'action, se voir comme un corps passif, organique, à distance, mis en exergue, tout cela, ça conduit à cette impression d'inquiétante familiarité. C'est moi, mais en même temps, ça n'est pas moi. Je ne me réduis pas à ça. Mais c'est bien une partie de moi. Un corps qui pourrait perdre potentiellement un organe, ou dont l'organe pourrait être temporairement prélevé, puis on va replacer autre chose à l'intérieur du corps. On va mettre une prothèse, prothèse de hanche, prothèse interne. On va placer de l'artificiel à l'intérieur de l'organique. Tout ça peut paraître anodin, puisque ça se fait couramment aujourd'hui. Mais est-ce vraiment anodin pour celles et ceux qui le vivent ? Votre corps reçoit une greffe, c'est une greffe externe, c'est la greffe qui provient d'un autre corps. Vous en aviez besoin pour survivre et en même temps, eh bien, il y a à l'intérieur de vous quelque chose d'autre qui a été placé par une opération technique. Cette façon de considérer son corps comme étant en continuité avec un extérieur possible, avec une visibilité externe, c'est très dérangeant. Relativement à l'impression que nous avons du corps tel qu'il est vécu, vécu dans une continuité de possibilités, de possibilités d'action, de possibilités de présence, de déplacement. C'est par ce corps que nous habitons les lieux. Et puis, dès lors que nous sommes plus fragiles, plus dépendants, plus malades, dès lors que nous sommes examinés, eh bien, nous nous voyons nous-mêmes de l'extérieur, nous nous voyons nous-mêmes comme un être en position passive. Et nous nous regardons alors. C'est assez inquiétant d'imaginer l'intérieur du corps comme derrière des membranes, ainsi que l'on voit ici dans la pièce, se découvrir petit à petit. Cela me rappelle ce que disait Dan Manix, qui avait longtemps travaillé dans un cirque, et il était avaleur de sabres, et un jour il a essayé d'avaler un néon pour voir ce que ça donnait. Et évidemment, il s'est mis à luire. Et les autres lui disaient « Ah, ça c'est formidable parce qu'on voit l'intérieur de ton corps, tu luisais comme un ver luisant. » C'était absolument dégoûtant, continue comme ça. Et en fait, on a d'une certaine manière, dans cette mise en visibilité de l'intériorité par la technique aujourd'hui, un effet qui est de cet ordre. Comme si, par les sondes, par l'ensemble des moyens qui rendent visible l'intériorité, on se trouvait désormais face à soi-même, mis à distance ou exposé, mis à distance pour soi ou exposé pour les autres, exposé en pleine visibilité, en pleine passivité aussi, sans être capable de se défendre contre ces regards qui vont petit à petit percer l'enveloppe corporelle. Vous faisiez allusion tout à l'heure dans le dialogue à Bacon, et Francis Bacon lui-même avait un rapport particulier à son enveloppe corporelle. Il était alcoolique et il se peint dans de nombreux autoportraits comme une masse de chair qui n'est pas vraiment soutenue, qui est flasque, qui a tendance à se déliter. Didier Anzieux, le psychanalyste qui avait travaillé entre autres sur Francis Bacon, disait qu'on avait affaire ici à une sorte d'enveloppe corporelle qui n'arrivait plus à jouer son rôle de contenant. Pour Didier Anzieux, il y a différentes formes de contenants. le contenant qu'est la peau, qui est l'enveloppe du corps, qui est ce qui nous donne l'impression tactile d'avoir une continuité corporelle, et puis l'enveloppe psychique, le moi, qui est le contenant de nos pensées. Et lui faisait l'hypothèse que c'est par l'intermédiaire de la découverte chez l'enfant de l'enveloppe du corps que l'on en vient à construire le moi comme enveloppe de la pensée. Et il a développé l'idée d'un moi-peau, d'un moi étayé sur la peau, un moi étayé sur l'expérience tactile infantile de la peau, sur le soutenement des mains d'une mère sur la peau de son nourrisson, par exemple. Et vous voyez ici le rapport entre le psychique et l'organique. Vous avez une enveloppe organique tactile qui va permettre de développer une enveloppe psychique plus solide. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est à l'hôpital, quand on est perfusé, quand on va percer cette enveloppe? N'y a-t-il pas aussi une forme d'effraction plus psychique qu'organique? On va toucher à la fois à l'enveloppe visible du corps, mais peut-être aussi à cette enveloppe intérieure qui est le moi, dont la fonction de cohésion, de cohérence, se trouve mise à mal par l'expérience du soin tel que nous le connaissons ou tel que nous pourrions le connaître.
Si oui, ce qui est dans cette exposition, et c'est aussi une question à bien avancer, c'est aussi ce qu'on rend dans la santé, dans le contexte de ce que vous faites, on rend dans l'entrepreneuriat de la santé, le côté entreprise de la santé, en technicisant tout comme ça. Et c'est pas la volonté d'expérience, je pense pas, mais c'est l'état d'être entrepreneur. Mmh. Et ce que vous essayez de démontrer, c'est justement, c'est pas ça, le corps. C'est pas une entreprise.
Bah, le soin, s'il va être bien fait, de toute façon, ça peut pas
oui,
être...
Oui, ça, c'est une entreprise pour vous.
Oui. Après, moi, dans des pièces précédentes, il y avait quand même l'idée d'un corps qui était dans des sortes de chaînes de production, en fait. Il y avait aussi l'idée qu'à un moment, en fait, on était aussi un objet façonné.
D'accord.
Il y avait aussi une sorte de...
C'était pas le cas il y a une dizaine d'années.
Pardon ?
C'était moins le cas il y a une dizaine d'années. C'était... Ça a changé d'optique. Le rallongement de la durée de vie a impliqué des techniques plus affinées. Et du coup, on technicise plus et on rend plus entrepreneurial, si je peux avoir de l'argent, je parle au niveau humain. C'est qu'en fait, les soignants se sentent moins... Je n'ai pas été dans l'hôpital, mais j'ai vu des gens qui l'ont été. Les soignants ont moins la flamme parce qu'ils ont trop technique comme distribution, c'est... Mm. C'est un entrepreneuriat au niveau mental. C'est une sérialité des patients. C'est patient numéro 2, patient numéro 3, patient numéro 4. Mm. C'est plus dans le personnalisme.
Oui, il y a une sorte d'objectivisation de.
C'est
corps,
un peu cliché ce que je dis, hein, mais il y a que c'est autour de cette mentalité du 19e siècle de tout normer et de peut-être même empêcher la philo, finalement. Mm. Ou essayer de faire taire la philo. Des sciences, c'est là. Pour laisser place à l'entreprise. Hmm. Mais je reconnais que c'est un peu remboursé.
Vous voulez... Oui, ben, allez-y, je vous en prie.
Non, moi, je voulais rebondir... du coup, c'est pas tout à fait sur ce que vous avez... ce que vous venez de dire. Non, mais cette question de l'intérieur et de l'extérieur du corps et de tous les moyens comme ça qui permettent de découvrir ce qui se joue à l'intérieur et les formes que ça prend. Moi, en fait, ce qui m'a un peu troublée dans notre premier échange, c'est que... Et je pense qu'il y avait il y a tout un travail de mots, en fait, que moi, j'utilise dans mon travail et d'univers, qui sont, en fait, des choses qui sont plus de l'ordre de la phobie, pour moi. L'intérieur du corps... le sang, qu'est-ce qui fait qu'on est une machine aussi organique et que du coup elle a ses propres limites et qu'à un moment en fait pour moi c'est des choses que par déplacement en fait et en étant dans la matière je peux en parler et en même temps en fait sur notre premier échange Moi, ça m'a troublée parce qu'en fait, d'un coup, vous ameniez du réel sur ça, en fait, en... parce que vous côtoyez des personnes handicapées, oui, polyhandicapées. Et cette façon aussi de connaître sans connaître, de fantasmer, en fait. Et moi, je pense que du coup, c'est plus dans des... Je l'ancre plus sur des états psychiques que je mettrais en image aussi. Et en même temps, du coup, comme mon travail, c'est la matière, ben, en fait, ça passe aussi par comment dire le corps et comment dire des états psychiques par la matière. Et du coup, c'est comme si c'était la première fois où, à un moment, en fait, au lieu d'être juste dans la phobie et la peur, parce que aussi le contexte faisait que... Bah, moi, il faut aussi se dire que les choses existent aussi. Et ben, moi, je sais que ça m'a un peu troublée. Je sais que vous avez travaillé sur la monstruosité et aussi effectivement le regard de personnes saines qui regardent, en fait... par exemple, des personnes handicapées. Et moi, je sais que j'ai aussi beaucoup de souffrance et il y a une chose qui est un peu trop difficile à voir pour moi. Et du coup, le regard posé aussi sur des personnes handicapées ou qui...
Oui.
Le passage est pas...
Non, mais tout à fait. C'est vrai que c'est une grande partie de mon travail, la philosophie du handicap, une manière de s'interroger sur ce qu'est une existence, notamment quand on a un très important handicap physique et que ben, on se trouve être en dépendance totale avec un respirateur, dans un lit fauteuil. Voilà, j'ai longtemps travaillé avec un ami qui est dans cette situation depuis plus de 40 ans. Et par conséquent, ça interroge sur ce qu'est notre humanité, sur ce qu'est une vie valant la peine d'être vécue, sur ce qu'est la qualité d'une vie. Effectivement, dans les établissements pour personnes handicapées ou polyhandicapées, c'est-à-dire ayant à la fois handicap intellectuel et physique, ben, vous avez des lèves-personnes qui, ici, comme dans l'installation, lèvent des corps, déposent ces corps, dans les hôpitaux aussi, pour les personnes très âgées, vous le savez. On a l'impression d'une très grande passivité associée à ces corps, forcément, puisqu'ils ne bougent pas. Mais qu'en est-il de l'expérience intérieure? Il peut y avoir un contraste frappant entre l'immobilité du corps et la mobilité psychique de personnes qui, par ailleurs, ne peuvent pas bouger. La mobilité psychique, c'est-à-dire la capacité de s'adapter, la capacité de constamment vouloir faire en sorte de continuer à vivre et de trouver les moyens les plus adaptés pour continuer à vivre alors même que cette vie peut paraître comme n'ayant pas de valeur au regard d'autrui. Le problème, c'est que lorsqu'on regarde quelqu'un d'autre, on le regarde toujours à travers une certaine projection. Comme là, vous projetez sur les œuvres ce qui est de l'ordre de votre propre ressenti, expérience, eh bien, vous projetez aussi sur les corps ce qui est de l'ordre de votre propre expérience, disant par exemple, si j'étais dans son état, je ne pourrais pas, surtout pas. Oui, mais d'abord, vous n'y êtes pas, heureusement pour vous. Deuxièmement, la seule personne qui a son mot à dire à ce sujet, bah, c'est celui ou celle qui se trouve à être dans cette situation. Et certains qui disent... Même quand il y a un locked-in syndrome, c'est-à-dire on ne peut plus ni parler, ni bouger, on communique juste avec le regard et la reconnaissance oculaire, eh bien vous avez des gens qui disent « Non, mais ma vie vaut la peine, je n'ai pas du tout envie de disparaître, je n'ai pas du tout envie de mourir. » Contrairement à ce qu'intuitivement on pourrait penser. Donc là, on voit ces corps. Alors parfois aussi, ce sont des gens qui ont des handicaps de naissance avec des déformations corporelles impressionnantes. Donc ce sont des corps déformés, paralysés. On les voit un peu comme, ben, comme vos œuvres, justement, comme des choses. Et on ne se représente pas à quel point ils sont habités par une volonté d'exister. On a tendance à projeter sur les autres nos propres impressions. Et si le corps est jugé monstrueux, vous faisiez allusion au travail que j'avais fait initialement sur les corps jugés monstrueux, j'insiste bien sur jugé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un jugement, d'un regard que l'on porte. Et on va être très impressionné, notamment quand le visage n'est plus lisible, quand on n'arrive plus à se repérer à l'intérieur d'un visage parce qu'il manque une grande partie de celui-ci, ou parce que le visage et le corps est né avec une malformation telle que, eh bien, on n'arrive même plus à le placer au sein de l'humain, tel qu'on l'imagine d'ordinaire. Donc on le juge monstrueux. Mais finalement, on redouble par là, socialement, l'atteinte corporelle par une atteinte liée au jugement, une atteinte sociale, une stigmatisation sociale. On renforce très nettement ce qu'on appelle la situation de handicap. En réalité, ce n'est pas simplement la monstruosité du corps ou la monstruosité supposée du corps qui peut être problématique, c'est ce qu'elle fait vivre dans l'espace social. Et le regard que l'on porte sur l'autre peut être un regard totalement dénué d'humanité pour le coup. Et vous voyez que ici, ce qui se passe, c'est non plus la personne déformée qui est dépourvue d'humanité, mais le regard porté sur elle qui se trouve être dépourvue d'humanité. Et donc cela peut nous renvoyer en effet à un grand nombre de phobies, d'angoisses, de peurs qui nous sont propres, parce que peut-être que la déformation de l'autre fait écho en moi-même à une déformation intérieure, à quelque chose que je ne veux pas voir. À nouveau, étrangement proche et familier, mais en même temps lointain. Quelque chose qui nous laisse penser qu'au-dedans, il y a du difforme, mais un difforme qu'on ne veut pas accepter, ou une difformité psychique, ou une passivité psychique. Peut-être que l'autre qui ne peut pas bouger me renvoie à l'image de ma propre passivité parce que psychiquement, moi, je ne peux pas bouger et je suis très en difficulté lorsqu'il s'agit de faire preuve de dynamisme psychique. Peut-être que psychiquement, je suis un peu comme vos œuvres, justement. J'attends que l'on me tracte, que l'on me fasse bouger selon ce que Pascal appelait le discours de la machine, c'est-à-dire les cordes qui tendent l'individu et qui le font agir selon ce qu'on attend socialement qu'il fasse. Mais finalement, si on fait ça, alors on reste dans une certaine passivité de l'activité. Et peut-être que les corps passifs nous renvoient donc à une image très désagréable d'une absence de mobilité qui pour nous est interne. Donc voilà, soit peut-être une difformité intérieure-extérieure, soit peut-être une passivité intérieure-extérieure, et pourquoi pas les deux en même temps, alors quand le corps est déformé et ne peut pas bouger, c'est là que cela nous touche encore plus nettement. Bien sûr, nous pouvons aussi avoir de la compassion pour ces personnes, nous pouvons sentir de la proximité, nous pouvons sentir de la continuité, mais généralement, d'après ce qu'elles disent, ça n'est pas ce qui est le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est qu'on les prend un peu comme des objets de répulsion-fascination mêlés, toujours un peu comme les œuvres, justement, hein, où on a à la fois fascination et répulsion mêlées dans le regard, et qui vont faire en sorte de nous guider de côté, non pas vers l'autre, non pas vers lui, mais vers son apparence. On ne va voir que son apparence et non pas la personne. On va rester collé, adhérent à l'apparence, et incapable d'aller rencontrer une altérité, donc une autre personne, là où elle devrait pourtant pouvoir surgir si on lui faisait la place nécessaire.
Et justement, là, ce que vous dites, enfin, c'est une lutte, non ? Le fait de changer son regard, enfin, de ne pas se laisser happer par ce regard qui est quand même conditionné par la norme, j'ai l'impression qu'il faut toujours être en lutte pour ne pas tomber dans ce type de regard-là.
Oui, alors il y a effectivement une lutte qui se joue, mais la première étape, c'est de se rendre compte qu'en réalité, on a toujours un regard qui est conditionné par la norme. J'aime beaucoup, moi, observer mes propres réactions quand je suis face à quelqu'un qui, justement, a un corps très différent, je le vois pour la première fois. J'ai évidemment aussi une impression particulière, mais ça m'amène à rentrer en moi-même pour me dire « mais qu'est-ce que je suis en train de voir en l'autre ?» Non pas « qu'est-ce que je suis en train de voir ?» puisque là, ça voudrait dire qu'il y a une objectivité du regard, mais « qu'est-ce que je suis en train de voir en l'autre » c'est-à-dire « qu'est-ce que je projette sur l'autre ?» Comment est-ce que j'organise ce que je vois ? Qu'est-ce qui, dans mon éducation, dans mon habitude de voir des corps à peu près standards en permanence, va me conditionner ? Et la première étape, c'est cette conscience-là. Si je voulais, en disant « mais par principe, je respecte toute personne », passer outre par rapport à l'apparence du corps, sauter par-dessus. Bon, j'ai souvent vu des gens qui passent outre en disant qu'ils n'ont pas de problème, mais après, ils commettent des impairs particulièrement nettes, visibles, parce qu'en réalité, ils n'ont pas pris le temps d'accueillir cette distance qui se produisait entre eux et l'autre, cette fissure à l'intérieur d'eux-mêmes. Et du coup, comme ils ne l'ont pas accueilli, ils l'ont nié, ils sont passés par-dessus. Et puis la relation ne s'est pas mise en place, alors que le but c'est de mettre en place une relation au travers de l'apparence corporelle.
Vous avez une question ?
Oui. Par rapport à vos œuvres, l'effet d'avoir choisi des couleurs pastels, je trouve que ça nous aide beaucoup plus à rentrer à l'intérieur du corps, et ça nous rend moins en adversité le fait que ce soit des couleurs pastels, alors que c'est irréel. Je pense que quand vous externalisez des poumons, et tout ça, ça n'a pas cette couleur-là. C'est beaucoup plus frontal, enfin, s'installe justement le côté visuel de l'acceptabilité ou la non-acceptabilité. Et le fait d'avoir mis les couleurs pastels, je trouve qu'on accueille mieux votre œuvre.
Ben c'est vrai que moi, c'est aussi l'endroit où je me cale pour pouvoir pas être trop mal à l'aise aussi par rapport à moi, ma sensibilité qui est assez... oui, et du coup, je sais que dans les gammes colorées, moi, j'essaie d'être plus sur des tons assez acidulés, en fait, enfin, quelque chose de... qui renvoie à des couleurs qui sont plutôt très délicates et où on a plus de place pour pouvoir accueillir les projets, parce qu'effectivement... Enfin, il y a toujours un travail de couleurs en amont, mais enfin, si j'étais dans des couleurs plus mauves, plus vertes, enfin, des couleurs, enfin, rapidement, on peut aller sur quelque chose qui est beaucoup plus morbide, en fait. Et ce choix-là d'être sur des couleurs qui respirent, en fait, c'est aussi pour que l'on puisse quand même rentrer.
Vous les trouvez respirantes, ces couleurs pastel ?
Comment ?
Vous les trouvez respirantes ?
Je trouve qu'elles nous laissent plus de place. Que des couleurs qui seraient...
Alors que pour moi, ça sent plus la morbidité.
Ah oui, ok.
Mais ça adoucit aussi, ouais, hein. Ouais. Ce n'est pas...
Moi, il y avait vraiment essayé à la fois d'être, par rapport aux couleurs de la mosaïque, d'être sur un registre qui était plus des bleus et des verts, un peu de hôpitaux, en fait. Et après...
Oui, c'est vrai.
Ouais. Et après, c'était aussi comment voilà, dire l'intérieur du corps sans être dans quelque chose de trop sanguinolent, en fait. Mm-hmm. Et un rose comme ça, qui a des petites teintes légèrement orangées, pour moi, ça permettait aussi de faire un pas de côté et être, oui, être pas que dans une sorte de chose trop difficile à accueillir, quoi, et à observer.
Donc, j'ai l'impression qu'il y a presque quelque chose de consolateur, parce qu'il y a quand même, dans l'aspect formel, il y a quelque chose d'assez, une étrange harmonie, quand même, dans ce que vous proposez, une vraie délicatesse dans l'étrangeté et dans la douleur qui me paraît consolatrice, en fait. Et je me demandais si ça avait cette dimension là aussi.
Je voulais trouver un équilibre entre des formes qui allaient pouvoir être dérangeantes et pouvoir se référer à la fois à des pies, à la fois à des peaux d'écorchés. Et en même temps, je voulais quelque chose de très composé, en fait, pour qu'il y ait une sorte d'élégance peu de la forme, pour que justement, c'est une fois de plus, comment laisser une place sans que ce soit juste informe, ouvert. Et du coup, effectivement, ce côté peut-être consolatoire, c'est dans le soin pris au raccord et aux relations de matériaux ensemble. Enfin, moi, je sais que plus je les travaillais, plus j'étais contente d'aller voir apparaître, parce qu'aussi, il y avait quelque chose qui était assez. Assez délicat en fait dans la finition, dans la relation des matières entre elles, quoi. Et je pense qu'effectivement il y avait une élégance que j'ai cherchée, tout en n'étant pas je voulais pas que ce soit maniéré non plus, mais je voulais quand même que ce soit composé au maximum
ouais, l'élégance qui donne accès en fait à ce qu'on veut pas voir, à ce qui est plus douloureux.
Oui, c'est ça, c'est un peu c'est toujours voilà, avec les teintes, c'est ça aussi, c'est comment faire un petit virage pour le dire tout en le disant pas immédiatement, et que la place d'interprétation soit plus grande aussi, parce qu'on peut y projeter davantage de choses au lieu d'être juste direct, et cette forme un peu indéterminée me permet ça, en fait.
Ouais, ça permet d'être dans un état plus contemplatif. Ça donne accès, oui, c'est ça.
Effectivement, quand vous dites qu'il y a une sorte de déplacement par la représentation, qu'on peut arriver à mettre hors de soi quelque chose qui, sans cela, serait vraiment trop difficile à accepter, c'est le fondement même de la représentation. Que la représentation, elle soit plastique, elle soit littéraire, par l'intermédiaire du discours ou par l'intermédiaire du dessin, par le jeu de théâtre, peu importe, la représentation, elle vise à mettre à distance de soi pour mieux voir ce qui est soi. Et finalement, on peut voir au théâtre quelque chose qui est l'exacte représentation de sa vie, imaginons, mais ça sera quand même à distance. Ça sera quand même pas sa vie, mais parce qu'on la verra de l'extérieur, et cette mise en perspective, ce point de vue qu'on va adopter sur ce que l'on a vu, produit, eh bien, ça permettra de mieux accepter, de mieux comprendre, de mieux savoir. Ici, c'est un décentrement que permet la représentation. Et c'est une manière d'adoucir, vous disiez, que de travailler des couleurs autres. Oui, alors, tout dépend évidemment d'où on part, de quel sentiment on part, parce qu'on pourrait au contraire, sans savoir ce qui est ici, ne pas trouver spécialement douces ces couleurs roses, ces chairs molles et gluantes, flasques et blanches, tractées, hissées, traînées, sous perfusion, avec ces peaux de mouton, ces poudres et liquides laiteux, ces chaînes, tubes et tuyaux, avec le bleu pâle des carreaux, etc. En arrivant, si on ne sait pas à quoi s'attendre, on n'est pas spécialement dans le déplacement expressif, on est dans la découverte de quelque chose qui amène peut-être déjà dans un malaise certain.
Mmh. Bah, le malaise, c'est un point de pivot que je cherche en fait dans la recherche formelle. De toute façon, c'est, mais que ce soit pas un malaise direct en fait qu'il arrive à toucher à plusieurs endroits en fait chez moi. En tout cas, quand moi j'essaie de caler la forme en faisant des tests, en les détruisant, en refaisant des tests, tout ça, il y a cette sensation effectivement de trouble que j'essaie d'éprouver face à la forme qui va apparaître. Et c'est ça qui me permet aussi à un moment de mettre un point final à la forme, c'est quand justement le trouble il me laisse un peu de place, et en même temps il me gêne un peu, en même temps je suis un peu quand même heureuse de voir des relations de matière qui sont pour moi aussi très proches, ben là vous venez de faire la liste, mais d'être dans un registre plastique qui est très, très organique, et moi j'ai un plaisir des matières gluantes, des choses qui poissent, enfin il y a et si on le référence directement au corps, ça me répugne. En même temps, j'ai vraiment une sorte de plaisir de manipuler. Il y a une sorte de plaisir très, très ludique d'être dans ces sensations de matière. Il y a vraiment un imaginaire de la matière en fait, qui est en jeu quand les pièces sont en train d'être produites. Et dès qu'il y a une sorte de présence de corps nouvelle, c'est vraiment une sensation de... Je suis réjouie en fait. Il y a vraiment, c'est comment aussi dire le corps par des petits éléments aussi. Des fois, c'est pas que dans les gammes colorées, mais par exemple ces gammes de poisseux, alors qu'on est sur des teintes très blanches. Et ben voilà, comment en fait on prend juste des petits extraits de ce qui renverrait à de l'organique pour le mettre un peu ailleurs, quoi.
Est-ce que pour vous, ça a une dimension de transgression que d'utiliser cette matière, ou c'est un simple plaisir jouissif, ou est-ce que des fois ça déborde, je ne sais pas.
Je dirais que ça déborde souvent. Hein, je dirais que globalement, je pense que dans la production, ça déborde souvent parce que moi, j'aime. Enfin, il y a un vrai plaisir. Sensible de la matière, de patouiller, et voilà. Et après, ce débordement, il est présent aussi souvent dans les installations, parce qu'il y a souvent de l'eau, il y a souvent des soucis avec l'eau. Donc en fait, le débordement, il est autant dans les étapes de création que dans des vrais moments d'exposition. Là, ce qui est assez étrange, c'est que l'eau de la piscine, par condensation, elle dégorge un peu, donc il y a souvent des flaques d'eau. L'installation est très vivante au-delà même des mécanismes et du principe un peu d'être perfusé et branché. C'est que tout est prend vie à des endroits pas supposés en fait. Il y a des petits endroits de moisie qui sont apparus. Enfin, il y a une sorte de chose qui est vraiment en train de se faire en fait. Et il y a une évolution vraiment dans le temps. Et la question d'une temporalité où les choses se transforment très subtilement. Et là, il y avait aussi l'idée que c'était un lieu de transformation. En fait, elle est visible à des endroits que j'avais supposés. Elle est aussi... moi, je la découvre aussi. Là, ça faisait plusieurs semaines que je n'étais pas venue. J'ai vu un peu les évolutions très subtiles. et que j'accueille vraiment, parce que l'idée, c'est aussi qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, en fait. Et dès qu'on met en place des rapports avec de l'eau ou des motorisations, en fait, on sait qu'il va y avoir des variantes dans le temps. Et moi, j'aime bien qu'elle ait son autonomie de vie aussi, l'installation.
Ouais. D'accord.
Est-ce qu'on pourra la voir fonctionner? Je
ne
sais pas si c'est le cas.
Oui, la voir fonctionner.
La remettre. On l'a mise tout à l'heure un petit peu avant. Et voilà.
Oui. Moi, ce qui me fascine, c'est ça. Et je voulais savoir si, quand vous l'avez créé, vous avez pensé à quelque chose qui aspire ou à quelque chose qui transforme et, je ne sais pas, oui, rejette ou pas masque. Pour moi, c'était plutôt l'idée de transformation. Vous l'avez
conceptualisé ou pas du tout ? Vous l'avez vu bouger, du coup ?
Ah, non.
Ah, bah, d'accord. Oui, parce que ça bouge en fait. Ah oui, parce qu'elle fait des va-et-vient du coup dedans en fait. Il y avait l'idée, bah, encore de. On parlait de débordement, mais il y avait encore l'idée que des présences qui renvoyaient plus au poil viennent déborder de partout en fait, de canalisation et venaient proliférer. Enfin, il y avait vraiment l'idée de choses qui ne peuvent pas être contenues, quoi. Et d'ailleurs, la question des contenants, elle est vraiment aussi. Avec les formes, en fait, il y a des contenants en haut, il y a des fioles en bas. Enfin, l'idée de contenir et d'essayer d'empêcher le débordement, mais qui a quand même, qui fait quand même, qui est quand même présent, c'était aussi une des grandes réflexions de cette installation. Mais vous allez la voir bouger du coup, jusqu'à la deuxième aussi qui bouge derrière. Donc là, allez.
Oui, ça bouge là-bas, ça rentre, ça ressort ici, ça passe par ici. D'accord. Il y a toute cette série d'alambics qui amènent jusque de l'autre côté de la tuyauterie. Nous, on est en dessous ici, ou à l'intérieur, je ne sais pas, ou dedans.
En dehors de l'exploit artistique, il y a aussi un exploit technique. Quand on regarde un petit peu la complexité de l'installation, c'est vous qui avez créé toute
Alors, du coup, j'ai été aidée pour la motorisation par Mathieu Grivelet, qui est ingénieur. Et après, il y a Théophile, qui est régisseur ici, qui a travaillé... parce que du coup, effectivement, c'était que 2 mois de production. Et c'est une très grosse installation pour 2 mois de production. Du coup, il y a Théophile qui m'a aidée. Il y a Camille aussi qui m'a aidée. Enfin, il y a plusieurs personnes. Il y a eu des bénévoles, Mathieu... Enfin, on m'a aidée. Et effectivement, c'était assez ambitieux pour 2 mois de production... Et voilà. Et techniquement, bah oui, ça, c'est compliqué. Mais du coup, c'est d'autant plus satisfaisant quand ça prend vie et que ça bouge. Mais effectivement, c'est beaucoup d'essais, de calage, de refaire.
Voilà. J'ai aimé ce que vous disiez sur cette œuvre qui prend vie progressivement, non seulement parce qu'elle bouge, mais aussi parce qu'elle change, qu'elle se transforme. Elle a une vie propre, finalement, à partir du moment où elle se développe. Mais cette fois, ce n'est plus la représentation d'une vie organique, c'est la vie de l'œuvre elle-même dont on parle. Et la vie de l'œuvre elle-même, ben, quand on la construit, elle passe par une série d'essais et d'erreurs, de difficultés, de pannes aussi, quand on le met en place. Ça, c'est exactement tout ce qu'on oublie quand on essaye de créer un mode de fonctionnement hyper orchestré, organisé, technicisé, tel qu'on voudrait que fonctionnent aujourd'hui les hôpitaux, par exemple. On voudrait qu'il n'y ait plus de panne, plus de problèmes, que tout fonctionne toujours. Or, la nature même du travail, là vous parliez du travail artistique, mais la nature même d'un travail humain, c'est de se confronter à la panne, à l'échec, à la difficulté, à tout ce qui n'est pas prévu par le plan d'origine, par la procédure, pour obtenir le résultat souhaité. Et vous, bien finalement, vous en faites un ressort de l'activité. Là où la plupart des gens... en font un problème, une difficulté, quelque chose qu'il faut extraire, expurger, surtout ne pas avoir ce genre de problème, parce que comme ce n'était pas prévu, ça n'est pas possible de l'inscrire. Le travail artistique, lui, se nourrit au contraire de tout cela. Et c'est ce qui fait sans doute la vitalité du travail et la vitalité d'une œuvre.
Oui, enfin, moi, je sais que il y a vraiment... Il y a toujours la phase de production qui est intense, après il y a la phase de repos, il y a la phase d'assimilation de qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant le temps de l'exposition. Et en fait, la recherche, elle se fait vraiment toutes les choses qui n'étaient pas prévues de l'installation, en général, amènent les pistes pour les futures installations. Enfin, en fait, il y a vraiment une intégration de tous les... ce qui pourrait apparaître comme des défauts. Et ce qui est compliqué aussi pour les lieux d'accueil, c'est que bah, c'est compliqué si on inonde un lieu, c'est compliqué si... enfin, c'est compliqué. Mais tout ça, en fait, moi, je les intègre vraiment. Et même si, en fait, même dans l'expérience, parce que bah, des fois, c'est de la maintenance, il faut que je revienne sur les lieux et tout ça. Mais cette relation, en fait, jusqu'au bout, même pendant le temps d'exposition, elle nourrit les futurs questionnements, en fait, des installations qui adviennent après. Et le fait que les questionnements soient en permanence et partout, et à des niveaux qui se jouent avec des parallèles intimes, enfin, ce que vous disiez aussi, c'est qu'à un moment, effectivement... Je disais que là, on était un peu dans une sorte d'intériorité qui serait la mienne, mais c'est vrai que moi, je découvre aussi par des choix qui sont des choix souvent malgré moi, ce qui, enfin, ça me dit des choses aussi de mon état intérieur, en fait. Et donc, moi, je le vois vraiment entre les premières installations que j'ai faites, les récurrences que j'avais et qui ont évolué justement d'installation en installation. Notamment cette question du soin là, enfin, moi je sais que ça fait écho à des choses intérieures en moi, enfin, et je pense qu'à plein d'endroits il y a un moment où là c'est du coup silencieux, mais sinon c'est plutôt bruyant, et par exemple ce rapport à créer du son un peu cacophonique, enfin, moi je sais que ça travaille à plein d'endroits de mon intimité. Et cette mise à distance, elle est très, même pour se rencontrer, elle est très importante, parce que du coup, moi, c'est vraiment d'autres portes d'accès pour connaître des choses que je pourrais pas travailler autrement. Et je pense que c'est pour ça aussi que on a cette sensation peut-être d'intériorité particulière, et c'est qu'en fait, il y a des vraies choses qui se jouent de rencontres, en fait, de choses qui adviennent.
Je sais pas comment s'est fait la genèse de cette en amont de votre performance ici, elle était déjà installée dans votre imaginaire, ou elle s'est créée au fur et à mesure, élaborée au fur et à mesure de vos deux mois ici, parce qu'une telle installation, il me semble que l'écriture se fait bien en amont.
Bah, en fait, j'étais venue en mars dernier découvrir le lieu, parce que je le connaissais, mais qu'en photo et puis en communication. Du coup, j'avais vu l'importance de la charpente, parce que du coup, il y a la charpente métallique, mais après, on a descendu la charpente pour la prolonger. Enfin, en fait, j'ai découvert ce lieu, j'ai vu qu'il y avait le puits, donc j'ai vu toutes ces particularités, et comme là, il y avait deux mois de production, moi, je voulais vraiment faire une installation in situ qui soit comme si elle avait toujours été présente, en fait, donc reprendre la forme des fenêtres pour faire les ouvertures, utiliser le puits pour faire comme une forme en salle d'attente, qui serait comme ça à la fin d'introduction. Donc, en fait, en découvrant le lieu, j'ai eu toute la scénographie des pièces. Après, j'avais exactement en tête l'imaginaire que je voulais qu'il soit présent. Et après, bah, il y a le travail entre le fantasme de la forme et la calée. Eh bien, il y a du travail. Pendant deux mois. Intensément. Mais en gros, oui, en termes de scénographie, je savais où seraient les éléments. Et en termes de sensations, de ce que ça devait me raconter, ce que j'allais travailler, ça, je le savais.
J'avais une question sur... vous parliez tout à l'heure de l'interface entre homme-machine, la notion un peu maître-esclave, quoi. Le temps où les infirmières, les médecins, l'hôpital étaient maîtres de leur machine, et que maintenant, comme on parlait tout à l'heure avec monsieur, est-ce que ce franchissement a été discontinu d'un seul coup, ou est-ce que ça a été fait de manière progressive?
Alors c'est progressif, mais il y a des accélérations très importantes ces dernières années qui sont liées à l'apparition de l'intelligence artificielle dans le soin. Par exemple, le métier d'orthoprothésiste, les personnes qui construisent, qui conçoivent les prothèses ou les orthèses qui permettent de faire un mouvement sans se blesser, eh bien, ont vu leur métier complètement se transformer en peu de temps. Avant, c'était un métier très artisanal, très dans le contact, où on faisait venir le patient, on essayait avec lui des prothèses pour voir si ça s'adaptait bien sur le moignon, des orthèses pour voir si on était dans un mouvement assez souple, assez fluide. Et puis maintenant, il suffit de scanner en fait le membre, le corps, d'envoyer les données à une intelligence artificielle qui se trouve souvent aux États-Unis. On reçoit ensuite la prothèse, déjà faite, déjà formée. Et donc, vraiment, les orthoprothésistes me disaient, on a l'impression aujourd'hui, non plus d'utiliser des outils, mais d'être utilisé par ces outils pour faire un travail qui va favoriser celui de l'intelligence artificielle. Et on demande du coup à nos patients, marchez comme ceci, avancez plus droit. Et ça, c'est pour permettre le scanner du corps de façon plus efficace. Donc eux me disaient que vraiment, leur métier avait changé du tout au tout en peu de temps. Et pour la formation des jeunes orthoprothésistes, c'est très difficile parce que maintenant, il faut anticiper sur ce qui pourrait se produire. Or, ce sont des mondes où on n'aime pas anticiper. Vous parliez tout à l'heure de tous ces essais-erreurs qui font partie du travail artistique, de l'anticipation que vous aviez eue en découvrant les lieux, puis petit à petit en les remplissant, les transformant eux-mêmes. Bien, ça, c'est ce que l'on n'aime pas en général dans ces métiers de soins où on vise l'efficacité, où on est, soi-disant, pragmatique et uniquement pragmatique. Donc, on a beaucoup de mal à penser les changements et transformations et on se jette très vite sur les innovations, en réfléchissant assez peu aux conséquences réelles que celles-ci vont avoir à la fois pour les patients, mais aussi pour les professionnels de soins. Donc voilà pour répondre à votre interrogation à ce sujet. Il y a eu une transformation très progressive et une accélération ces dernières années, me semble-t-il.
Et